L'audioblog du passé composé. Aujourd'hui, la journée tragique du 25 août 1944 à Montravert. La progression des Alliés après le débarquement de Normandie entraîne presque partout le repli des troupes allemandes d'occupation. Le 22 août, à la nuit tombante, un détachement commandé par le capitaine Obermann Bloth quitte son cantonnement de Beauvoir-sur-Mer dans le nord de la Vendée. À l'aube du 25, vers 6 heures du matin, leur progression les amène au hameau de la Jacquelinière, à peu de distance du village de Montravert qui regroupe à peine 450 habitants. Montravert se situe dans le nord des Deux-Sèvres, à quelques kilomètres de Cerisay. Pour l'atteindre, les Allemands ont donc parcouru environ 150 kilomètres. L'avant-garde de la colonne allemande, exténuée, fait une halte lorsque, par le plus grand des hasards, surgit dans le sens opposé deux voitures de FFI lancées à grande allure. Celles-ci stoppent brusquement à la vue des véhicules ennemis de maquisards sortent, dont l'un armé d'une mitraillette met en joue l'officier allemand. Puis, ils se ravisent, probablement par crainte de représailles pour les habitants de la ferme. Ils remontent dans leur voiture, reculent à toute vitesse et repartent dans l'autre sens, en faisant crisser leurs pneus. Les Allemands, au départ, saisis de surprise, s'élancent à leur poursuite, mais sans pouvoir les rejoindre. Cette irruption soudaine, pour des hommes déjà ivres de dépit et de fureur devant la déroute qui s'annonce pour l'Allemagne, n'ont alors que l'idée de vengeance. Ils se déploient dans les prés des alentours en direction du hameau de la Tallerie, d'où l'on entend le bruit d'une locomotive de machines à battre. Dans la maison d'Élie Billy, Madeleine, sa femme, âgée de 44 ans, est restée avec ses filles Colette, 21 ans, Madelon, 20 ans, la petite Danielle, 6 ans, et la cousine Odile, qui a 14 ans, pendant que le chef de famille avait rejoint les hommes au battage avec son fils de 9 ans. Par une fente laissée aux persiennes refermées d'une chambre du premier étage, elles observent la halte du convoi allemand et le face-à-face explosif avec les résistants. Elles comprennent aussitôt le sort qui peut être le leur lorsqu'elles voient les Allemands s'élancer vers le hameau. Sans réfléchir, elles sortent de leur maison et commencent à courir vers le lieu du battage. Les Allemands trouvent d'abord sur leur route plusieurs hommes qui vaquent leurs tâches quotidiennes. Joseph Gauthier, Joseph Vion et son neveu Gérard se retrouvent ainsi aussitôt pris en otage. Apercevant devant eux la course de celles qui, prises de panique, fuient leur avance, les soldats commencent à tirer. Madeleine, qui avait la petite Danielle à son cou, réussit à atteindre un champ de topinambours où elle se pense à l'abri. De toutes ses forces, elle appelle ses filles et leurs jeunes cousines. Madelon et Odile changent de direction et se dirigent vers les cris entendus. Mais Madelon n'atteindra jamais sa mère. Un coup de fusil l'arrête net et la blesse mortellement. Madeleine hurle et se précipite vers le corps de sa fille. Elle est aussitôt la cible d'un tir qui lui perce la poitrine. Elle entraîne dans sa chute sa plus jeune fille, blessée au genou par une balle ayant frappé sa mère. Couverte du sang maternel, écrasée par son poids, celle-ci gît à terre. Odile avait eu le temps de se coucher près de Madelon lorsque sa cousine s'était effondrée. Elle allait se relever lorsqu'un soldat lui assène un violent coup de crosse sur la tête. Colette, la fille aînée, a eu plus de chance. Elle n'était pas sortie de la maison en même temps que le reste de la famille. Elle était partie par la porte de derrière, après avoir fermé portes et fenêtres. Ses précautions qu'elle avait voulu prendre l'ont retardée et elle ne put qu'assister en retrait à la fusillade qui décime sa famille. Elle eut aussi le temps de voir son père Élie découvrir le massacre, aussitôt mis en joue et emmené en otage par les Allemands. Colette assiste aux derniers instants de Madelon et aide à dégager sa petite sœur Danielle gémissante sous le corps de leur mère. Une carriole transporte Madelon et Odile à l'hôpital de Châtillon-sur-Sèvre. Madelon, touché par plusieurs balles, y restera hospitalisé 4 mois. Odile ne se remit jamais de sa blessure à la tête et décédera un an après. J'ai eu l'occasion de m'entretenir plusieurs fois avec Colette, déjà âgée, très âgée. 60 ans après les faits, elle avait toujours du mal à raconter les terribles scènes qu'elle revivait avec une émotion qu'elle ne pouvait dominer. Hélas, la journée n'était pas terminée après ce premier massacre et les Allemands poursuivent leurs exactions. Ils avaient réuni en tout 15 otages qu'ils enferment dans le poulailler du château de la Louisière, propriété du maire de la commune, Joseph de Bourgard. Ils avaient décidé d'y fixer leur cantonnement. Les envahisseurs formaient une importante unité d'infanterie avec une batterie d'artillerie de 4 canons de 77, 8 canons anti-chars, de nombreuses mitrailleuses et fusils mitrailleurs et des munitions en abondance. La rencontre inopinée avec les deux véhicules de FFI les avait convaincus de la présence d'un maquis important dans les environs et la prise d'otages constituait pour eux une garantie pour leur sécurité. Commence alors une terrible négociation entre le maire, alors âgé de 51 ans, et le capitaine Blot. Joseph de Beauregard veut s'assurer que les otages lui seront rendus au moment du départ du détachement prévu en fin de journée. Il obtient rapidement la libération du malheureux Eli Billy, autorisé à rejoindre sa maison pour veiller les corps de sa femme et de sa fille. Mais le hasard, comme à l'aube, avec l'irruption soudaine des FFI, va encore ajouter un épisode dramatique à cette sinistre journée. Deux autres véhicules Citroën, avec 9 FFI à bord, ignorant totalement la présence des Allemands, transportent des munitions des bois d'Anjou à la forêt de Vouvant. À l'entrée de Montravert, ils découvrent le poste de garde où veillent des sentinelles allemandes. Ils veulent éviter l'affrontement et cherchent à se dégager. Mais le chauffeur de la première voiture ne connaît pas les lieux. Il s'engage inopinément dans l'avenue qui mène au château de la Louisière, s'engouffrant ainsi, sans le savoir, dans une souricière. Très rapidement, il se retrouve face au convoi d'artillerie et fonce au milieu des bâtiments, arrosant leur passage d'un feu nourri. Parvenu à la chaussée d'un vieil étang, encombré par les canons de 77 et une charrette mise en travers, ils sont contraints d'abandonner leur voiture et de fuir dans les champs environnants où ils disparaissent. Les Allemands, médusés au départ par ce qu'ils croient être une attaque concertée, tardent à riposter, mais ils se lancent finalement à la poursuite de leurs assaillants, balayant d'un tir violent toute la campagne sur près de 2 kilomètres. La réaction du capitaine Blot est terrible. L'un de ses soldats a été tué et 2 autres blessés. Il informe Joseph de Beauregard qu'il exercera de ce fait des représailles. Sa décision est prise. Seuls 11 otages seront libérés et 4, les plus âgés, seront fusillés. Le maire de Montravert joue le tout pour le tout et tente de convaincre l'officier de revenir en arrière. Il le prend carrément par l'épaule. « Vous êtes officier, les sentiments d'honneur doivent guider vos actes. Ces hommes sont innocents, absolument innocents, ignorants du fait qui vient de se produire. Vous allez me les rendre. » Blot hésite, mais maintient finalement sa position. « Je ne suis pas une femme, je ne me laisserai pas fléchir. » Toutes les tentatives de Joseph de Beauregard restent vaines. Le curé n'a qu'une minute pour préparer les pauvres victimes avant qu'elles ne soient conduites devant le peloton d'exécution. À 18h30, dans le cimetière de Montravert, le dos tourné à leur bourreau, Joseph Vion, les 2 frères Théodore et Charles Bobin et Joseph Gauthier, le cantonnier communal, sont fusillés. Ce dernier a le temps de dire à l'abbé Journaud « La mort ne nous fait pas peur, nous mourrons pour la France et pour nos familles. » À 19h, l'unité allemande quitte le château de la Louisière, laissant quelques hommes, pour faire sauter les 2 pièces de 77, une partie des munitions, les 2 véhicules des FFI et les armes et munitions qu'elles contenaient. Toute la journée du lendemain, d'autres convois allemands venant de Noirmoutier traversent à leur tour Montravert. Pour inhumer les victimes massacrées et fusillées, et dont les corps reposent dans l'église, transformée en chapelle ardente, il faut à chaque fois traverser la route et ainsi couper la file du convoi qui s'étire comme à l'infini. La tension est extrême avec les soldats inquiets et prêts à se servir de leurs armes à la première occasion. La cérémonie quasi clandestine au vu des circonstances fut particulièrement poignante et pendant 8 jours, une atmosphère de terreur et de crainte tint la population du village éloignée de son centre. Chaque année, depuis la tragique journée du 25 août 1944, une commémoration réunit la population du village et les autorités pour entretenir le devoir de mémoire.